Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en ce jeudi soir de 22h30 à minuit, sans aucune interruption. Soir Info décrypte l'actualité en compagnie d'Elisabeth Lévy ce soir, qui fait tomber des petits... Qu'est-ce que c'est qui est tombé? Un petit bouton de veste. Je ne sais pas si c'est celui de Pierre Lelouch ou d'Elisabeth Lévy. Tout part à volo sur ce plateau. Elisabeth Lévy, bonsoir. Merci d'être là. L'énigme restera intacte sur cet objet qui vient de tomber. Pierre Lelouch, ancien ministre, merci beaucoup d'être avec nous. Yoann Uzaï, vous dites ?
Qui ne retourne pas.
Bah, j'espère pour vous, bien sûr. Yoann Uzaï du service politique de CNews. Bonsoir, bonsoir cher Yoann. Éric Tegner est parmi nous.
Bonsoir, Julien.
Directeur de la rédaction de Livre Noir. Bonsoir à vous, Alexandre Devecchio, de la rédaction du Figaro, bien sûr. Bonsoir, cher Alexandre Devecchio. Beaucoup de choses, comme tous les soirs, à évoquer, à analyser, à commenter ensemble. D'abord, je voudrais qu'on revienne sur cette... déclaration d'amour que fait Jean-Luc Mélenchon à notre chaîne ce soir. Et il n'y a absolument aucune ironie, bien sûr, hein, dans ce que je dis. Vous savez que la conférence de Jean-Luc Mélenchon sur la Palestine prévue ce soir avec la militante franco-palestinienne Rima Hassan, contestée par une partie de la classe politique, a été interdite par la préfecture du Nord, qui a invoqué un risque de trouble à l'ordre public. La conférence qui devait initialement se tenir à l'université de Lille avait déjà été interdite une première fois hier par l'université elle-même. Le leader de LFI qui a tout de même tenu un discours ce soir dans les rues de la ville de Lille. Et le coupable est tout trouvé. C'est CNews.
Nos délateurs sont couverts d'infamie et les aboyeurs qui les relaient pendant des heures et des heures sur cette chaîne infâme qui s'appelle CNews. À qui l'organisme qui attribue des fréquences, j'espère, aura le sursaut de dignité de la refuser la prochaine fois puisqu'elle est en cours de renouvellement. 17% du temps d'antenne consacré à nous insulter, à nous calomnier, sans qu'une seule fois une personne sur ces plateaux, dont c'est pourtant le métier et qui voudrait qu'on les appelle journalistes, mais qui sont juste des répondeurs automatiques, ne leur dit « ça suffit de parler comme ça, vous n'avez pas le droit de dire que Madame Rima Hassan ou que Jean-Luc Mélenchon sont des antisémites. Parce que si vous le pensiez, vous devriez porter plainte et vous ne le faites pas. Vous êtes donc juste là pour salir, pour insulter. Mais au-delà de nos personnes, pour créer une ambiance effroyable. Celle où les Français viendraient à se regarder entre eux et deviner à la courbure des cheveux, à la légère coloration de la peau, de quel côté vous vous trouvez. La patrie des Français appartient à tous les Françaises et tous les Français, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur de peau. Et nous défendons l'unité du peuple français, parce que c'est cette unité qui est notre force.
La liberté d'expression selon Jean-Luc Mélenchon. Je me tourne vers vous d'abord, Yoann, parce que il faut que chacun comprenne le contexte également de ces déclarations, sachant que madame Rima Hassan, numéro 7 sur la liste des européennes et qui tenait ce meeting aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, a porté plainte contre vous aujourd'hui. Elle l'a signalé sur les réseaux sociaux. Bonjour Yoann Uzaï, suite à vos déclarations que vous avez tenues sur CNews, elle cite Rima Hassan à la haine des juifs chevillée au corps depuis sa naissance. Je vous annonce déposer plainte contre vous. À très bientôt. Je vous souhaite d'être prêt. Yoann, évidemment que CNews et l'ensemble de la rédaction vous soutient, ça va sans dire. Qu'est-ce que vous pouvez répondre ce soir ?
Alors, d'abord, il y a un deuxième tweet dans lequel elle dit « je vous souhaite d'être prêt oui. » et elle poursuit en disant « je ne vous épargnerai pas ». Donc, comme souvent
menace
avec l'extrême gauche, on est dans la menace, mais ça c'est assez habituel de la part de la France insoumise. Ça ne m'émeut pas beaucoup, je dois vous dire que je ne suis vraiment pas intimidé. En revanche, je suis quand même assez surpris du dépôt de cette plainte, pour ne rien vous cacher, parce que voyez-vous, je ne prends aucun plaisir particulier à affirmer que Rima Hassan a la haine des juifs chevillée au corps. Si je me suis permis de le faire, c'est parce que je pense avoir les arguments pour le faire. faire. C'est parce que je pense détenir effectivement des éléments de contexte, de ces déclarations récentes, qui me permettent d'affirmer qu'elle est effectivement dans l'antisémitisme. Pourquoi est-ce que je dis cela? Si on prend les déclarations récentes, en l'occurrence celles d'après le 7 octobre dernier, en novembre notamment, quand un média a interrogé Mme Rima Hassan pour savoir si les actions du Hamas étaient légitimes, elle a répondu oui. Oui, c'est vrai, les actions du Hamas sont légitimes. Elle a donc légitimé le pogrom du 7 octobre, elle y trouve une justification. Si là, nous ne sommes pas dans l'antisémitisme, alors où sommes-nous ? Je lui pose la question, j'aimerais qu'elle réponde à cela. Quand on lui demande si l'État d'Israël a le droit de se défendre, elle répond non. Elle répond non, c'est faux, l'État d'Israël n'a pas le droit de se défendre. Nous ne sommes pas là à nouveau dans de l'antisémitisme. Quand sur des affiches, notamment celle qui annonçait le rassemblement à Lille, qui a été interdit, se trouve la photo de Mme Hassan avec son nom naturellement et accolé à cette affiche le logo de Free Palestine qui nie l'existence d'Israël, qui a effacé de la carte Israël.
Et on le voit.
Nous ne sommes pas là dans l'antisémitisme, dans la négation du peuple juif, dans la volonté manifestement d'éradiquer ce peuple juif. Quand on raye de la carte un pays, ça signifie que l'on souhaite la mort de son peuple. Je l'interprète de cette manière-là. On n'est pas dans l'antisémitisme. Écoutez, elle n'a pas réussi à me convaincre du fait qu'elle n'est pas antisémite. Je l'ai dit de manière journalistique, avec les faits que je viens de vous énoncer. Elle conteste cela. Elle souhaite me traduire devant le tribunal. Eh bien, si la procédure va jusque-là, j'irai exposer aux magistrats les faits que je viens de vous énoncer. Et je suis, j'espère que la justice me donnera raison et aura un peu de bon sens.
Pas sûr que cette plainte aboutisse. En tout cas, total soutien à vous, évidemment, Johan, réitéré de nombreuses fois sur ses antennes.
Merci beaucoup.
J'aimerais qu'on revienne à ce que dit Jean-Luc Mélenchon, parce que là, pour le coup, CNews est une chaîne infâme. Elisabeth Lévy, vous vous rendez compte de la violence quand même des mots du leader de la France insoumise. Et là, en l'occurrence, bon, c'est assez clair, c'est de l'injure publique.
Oui, alors avant de dire ça, je voudrais quand même rappeler, je crois que nous avons été nombreux sur ces plateaux. Moi, en tous les cas, je le fais tout le temps et depuis fort longtemps. Je défends la liberté des gens, je combats la censure, d'où qu'elle vienne et qui que soit.
Ah oui, nécessite. Et d'ailleurs, je me permets, et je vous rends tout de suite la parole à Elisabeth, personne sur cette chaîne n'a milité ou n'a demandé, ne s'est félicité de l'interdiction de cette conférence.
Voilà, donc nous avons été nombreux ici à le faire. Je constate d'ailleurs que dans la presse de gauche, on ne le fait que quand les personnes visées par la censure sont des gens de gauche. Sinon, alors là, on peut faire taire tout le monde autour, tout le monde. Sinon, ça, au contraire, c'est de la prophylaxie. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, évidemment, il se déconsidère avec ses propos. Il y a quand même quelque chose. Les huées, c'est quand même le signal faible de la barbarie. Moi, je déteste les gens qui font huer. Je déteste qu'on fasse huer, et ça aussi, tous les meetings. J'ai horreur de ça. Pour moi, il y a quelque chose de glaçant. Si vous voulez, il y a un sous-texte de foule, de meute qui est terrible.
Vous n'avez pas envie de vous retrouver au milieu.
Comment ?
Vous n'avez pas envie de vous retrouver au milieu. Je pense que si un journaliste...
Il considère les gens qui s'y livrent. Simplement, c'est quand même pas rien que quelqu'un qui a eu plusieurs millions, 7, 8, 6, combien de millions de voix à la présidentielle au...
Je n'ai pas en tête. Mais en
beaucoup
tout cas,
de millions, disons. Beaucoup trop, selon moi, de voix à la présidentielle. 2%. Si vous voulez se permettre de dire non seulement qu'on est infâme, bon, d'accord, écrasons l'infâme, comme disait Voltaire, mais aussi de demander clairement à l'ARCOM de ne pas accorder sa fréquence à CNews, ce qu'avait déjà fait l'ancienne ministre de la Culture et ce qu'avait fait d'ailleurs dans le monde très tranquillement. Ça témoigne quand même d'un climat, si vous voulez, et de ce que feraient ces gens s'ils étaient au pouvoir.
Voilà. C'est terrible de voir que dans ce...
Je finis juste en disant que je suis extrêmement jalouse de Yoann Uzaï.
Vous rendez compte quand même, retrouvons un peu notre sérieux. C'est vrai que la menace qu'il fait planer aussi sur les salariés de cette chaîne, Pierre Lellouche.
Moi, ça ne m'étonne pas, ils sont dans cette logique-là, mais quand même, je suis inquiet pour notre pays quand je vois des débordements pareils.
Bien sûr.
D'abord, attaquer un journaliste, quand on fait de la politique et qu'on est candidat, c'est lamentable. Quand on fait de la politique, par définition, on va être attaqué. Surtout quand on véhicule des idées qui sont très très violentes, quoi.
Et ils insultent tout le monde et ne supportent pas la moindre remise en cause.
Donc ensuite attaquer un journaliste. Après son patron a attaqué toute une chaîne de télévision. Et là on vient de rappeler que la ministre de la Culture avait lancé une sorte de fatwa.
Ouais.
C'est pas de le dire.
On va pas refaire l'histoire, mais
contre la chaîne CNews. Donc nous tous ici, nous sommes des infâmes parce que on pense pas comme Monsieur Mélenchon. Donc il faut nous supprimer. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans une logique totalitaire, ces gens-là.
Totalement.
Et ne peut s'exprimer que ceux qui sont d'accord avec eux. Les autres, on leur coupe
le sifflet. C'est le ministère de la censure.
On les traite d'infâmes, donc on les injurie, et on leur coupe le sifflet, on les empêche de diffuser une pensée qui est différente de la leur. C'est la définition du totalitarisme. Alors maintenant, sur ce procès contre Johan, moi je suis très...
Cette plainte pour le moment.
Oui, enfin cette plainte qui aboutira. Moi j'espère qu'il y aura un procès parce que ce sera l'occasion de vider l'abcès de l'antisémitisme et de l'antisionisme. Je pense que c'est tellement évident. Il suffit de regarder la carte qu'ils ont diffusée à la France Insoumise pour voir qu'ils sont dans une logique qui est celle de la charte du Hamas, n'est-ce pas ? Mm-hmm. Moi, je l'ai lu, la charte du Hamas. Le Hamas, comme d'ailleurs le gouvernement iranien, demande, milite, travaille depuis 40 ans, 50 ans pour la destruction d'Israël. C'est marqué, ils le disent. Pas question de reconnaître Israël, pas d'État palestinien. Et le divorce entre Khomeini et Arafat à l'époque s'est fait là-dessus. Est-ce qu'il y a ou pas un État juif ? Non, là il n'y a pas d'État juif, on tue tous les juifs. Voilà, donc c'est la Palestine sans les juifs. De la rivière à la mer, c'est ça qui est sur le panneau d'affichage du LFI.
Exactement.
Donc on peut pas, ils peuvent pas se réfugier derrière... Bon, une dernière remarque. On est dans l'instrumentalisation de la justice... dans le cas de M. Outaï, mais ce n'est pas la première fois. Quand j'ai vu l'Afrique du Sud, et ça c'est grave, l'Afrique du Sud, puis cette bande de voyous, de criminels sandinistes, Ortega, attaqués devant la Cour internationale de justice, qui est l'organe suprême du droit international, pour expliquer que le pays qui est né du génocide des Juifs est lui-même génocidaire. Là, on est dans un renversement parfait des choses. C'est-à-dire que celui
mais
qui
la boucle est bouclée et les masques tombent aussi.
C'est lui qui est attaqué. Donc, je crois que dans cette France wokiste, récupérée par l'extrême gauche, et dans ce monde qui perd tout repère, il est extrêmement important de tenir bon, de pouvoir s'exprimer et de se battre. Et de se battre pour des idées de bon sens, qui sont ceux qui fondent la démocratie.
On va revenir sur l'interdiction préfectorale de ce meeting. J'aurais qu'on finisse ce tour de table avec vous deux, Alexandre Devecchio et Éric Tegner. Qu'est-ce qui menace le plus notre démocratie aujourd'hui ? C'est News ou Jean-Luc Mélenchon ?
La question, la réponse est dans la question. J'allais dire, beaucoup de choses ont été dites. Je vais féliciter aussi Johan Usaï pour sa Légion d'honneur.
On sourit, mais franchement, ce que vit Johan depuis 24 heures, je pense qu'on n'a pas envie de le vivre parce que je suis pas allé chercher dans les messages personnels de Johan et j'ose imaginer que sur son téléphone, c'est l'enfer.
C'était bien sûr.
Vous ne les lisez pas ?
Je ne les lis pas.
C'était bien sûr une manière de lui exprimer mon soutien et je pense qu'il vit ça avec beaucoup de stoïcisme. Effectivement, il doit recevoir beaucoup d'insultes et de menaces. Ça met même peut-être sa vie en danger. Il faut aussi le rappeler qu'on croise beaucoup de personnes sous protection policière chez CNews. Ensuite, j'ai un coup de gueule quasiment à passer moi contre la préfecture parce que je pense que l'interdiction était une erreur. D'abord parce que la liberté d'expression n'est pas à géométrie variable. Ensuite, parce que ça permet à Jean-Luc Mélenchon de se victimiser, si vous voulez, et de relancer une campagne européenne qui était moribonde en désignant des adversaires. Et troisièmement, je savais que cette interdiction serait utilisée justement contre ceux qui dénoncent le communautarisme, l'antisémitisme, qui seraient ensuite visés et qu'on essaierait de bâillonner ces news et ces éditorialistes et peut-être tous ceux finalement qui défendent réellement la liberté de parole en France. Donc je crois que c'était une erreur stratégique, peut-être même une erreur stratégique délibérée, et que c'est dommage. Et moi, je continue à défendre même la liberté d'expression de Jean-Luc Mélenchon, même si je combats ses idées, sa violence dont on a à nouveau l'expression aujourd'hui.
Je voudrais qu'on voit ce tweet, puisqu'on avance un petit peu, mais je vais vous laisser commenter, Eric. Je voudrais qu'on voit le tweet de Jean-Luc Mélenchon qui réagissait à l'interdiction préfectorale. Encore interdit de réunion, hier l'université, mais aujourd'hui la préfecture est... dans un lieu public ouvert. Rima Hassan et moi sommes candidats sur la liste de Manon Aubry aux élections européennes du 9 juin. Nous interdire de réunion au prétexte de notre sujet est un abus de pouvoir de République bananière aux cafards qui ont voté pour les pesticides contre les fourmis. Un message, même les les abeilles qui se sont abstenues en sont mortes. Il est temps de ne plus se taire. Je vous cache pas que la métaphore ontologique, là, j'ai pas tout.
Il est quand même dans une dérive. Moi, j'aime pas les comparaisons historiques, mais ça ressemble vraiment, pour le coup, à ceux qui.
Éric Tegner.
À des Ouvrémonts, quoi.
Alors, je voudrais juste qu'Éric dise un mot parce que.
Je dis qu'il reste juste la vipère lubrique.
La
boucle.
Moi, je salue Johan aussi pour son sang-froid parce que ça rappelle aussi que les journalistes, lorsqu'ils expriment une opinion, des faits sur un plateau de télévision, sont systématiquement sous le coup potentiel d'un procès. Et donc, nous, on ne peut pas dire qu'il y a des journalistes sur CNews qui vont se contenter de dire des choses sans y avoir pensé avant, sans l'avoir étayé. Et donc, que Johan, justement, avec le sang-froid qu'il caractérise, dise que oui, il est prêt à aller devant justement un tribunal pour exprimer et montrer des éléments. Ça, c'est une façon de rappeler aux auditeurs que derrière, il y a toujours un travail qui est fait en amont lorsqu'on exprime une opinion publique. Moi, je pense que de la part de Jean-Luc Mélenchon, c'est une radicalité qui est complètement assumée. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est son électorat aujourd'hui qui est radical et ultra radicalisé. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, d'une certaine façon, n'est pas le plus radical au sein des différents électorats qu'on a aujourd'hui en France. Il essaye d'être au centre et c'est ce qui m'inquiète justement le plus. Lorsqu'on se reprojette un peu 30 ou 40 ans avant sur l'autre spectre politique, qui était la personne la plus radicale ? C'était Jean-Marie Le Pen. Mais Jean-Marie Le Pen, lorsqu'il s'exprimait, lorsqu'il avait d'ailleurs le même type de procès que Jean-Luc Mélenchon a aujourd'hui, hein, on voit à quel point il y a un inversement un peu des choses, il n'avait pas cette radicalité. Il était capable d'exprimer une forme d'humour, il était capable d'être un peu dans le fond, il avait une forme de sympathie. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon s'interdit cette sympathie. Pourquoi ? Parce qu'il est dans un objectif de fenêtre d'Overton, aujourd'hui, où il essaye de préparer les esprits pour l'élection présidentielle de 2027. Je ne pense pas d'ailleurs qu'il est dans une logique de gagner en 2027, mais plutôt de s'opposer face à une potentielle victoire de Marine Le Pen, parce qu'il se voit avant tout comme un révolutionnaire. Et pour lui, ça serait le moyen justement d'imposer une fracture. Et donc, il prépare cette radicalisation aujourd'hui des esprits. Et on le voit à quel point, et c'est pour ça que le sujet de cette plainte contre Johan est aussi importante, le 7 octobre aujourd'hui, c'est l'élément justement fédérateur et mobilisateur d'un électorat. On se rappelle, il lui manquait des voix qu'il entend mobiliser, pas sur cette élection, hein, parce qu'on voit qu'ils sont à la peine dans les sondages, mais plutôt sur l'élection à venir.
Oui, mais après, juste en même temps, il appelle, juste un mot, il appelle quand même ces révolutionnaires de salon, moi, me font pas non plus.
Quand on voit ce qui se dit dans certaines conférences, la journaliste d'Éric nous l'a conté hier.
Si vous voulez, je vois pas prendre le palais d'hiver, enfin, je l'espère, mais franchement. Ouais.
Toute révolution,
mais vous voyez bien leur conception du débat politique, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, Ioannis, vous pouvez pas croire ce que vous dites, sinon vous porteriez plainte.
Oui.
C'est quand même intéressant comme argument, c'est stupide.
D'ailleurs, juste pour avancer sur cette interdiction, je voudrais qu'on voit ce tweet que Jean-Luc Mélenchon n'aurait probablement jamais rédigé, celui d'Éric Zemmour, qui défend, aussi étonnant que ça puisse paraître, qui soutient plutôt, Jean-Luc Mélenchon a le droit de s'exprimer. On ne m'a jamais vu, on ne me verra jamais me réjouir qu'un adversaire soit censuré, même si on s'en doute, il ne me rendra jamais l'appareil. Ce n'est pas parce qu'il est un ennemi islamo-gauchiste que l'on doit se mettre à approuver les méthodes qui sont justement celles des islamo-gauchistes, la censure, l'interdiction, le bâillonnement, soutien inattendu que celui d'Éric Zemmour.
La
liberté
inattendu.
D'expression, c'est pour tout le monde ou pour personne, Pierre Lelouch ?
Non, mais il est dans la logique que M. Devecchio a dit tout à l'heure. On est dans une démocratie, tout le monde a le droit de s'exprimer.
Sauf que Jean-Luc Mélenchon n'aurait jamais formulé ce tweet.
Non, mais ce qui est un le problème,
dans le cas inverse.
Mélenchon, il en profite pour interdire une télévision.
Oui, c'est ça.
C'est là qu'on nage dans le. Alors, entre ce qu'a dit Voltaire.
Bon courage à lui.
Ce qu'a dit Voltaire sur je donnerai ma vie pour que même mon ennemi puisse s'exprimer, c'est la base de la démocratie. Et puis, les gens qui, au bout, brûlent des livres ou interdisent des télés. Donc, il ne peut pas se réclamer de cette liberté pour ensuite faire une sorte de dictature à lui, suivant ses idées à lui. Ce que dit Zemmour, qui venait d'être interdit en Belgique, est cohérent. Il a été interdit.
Puis autorisé par le Conseil d'État belge. Je voudrais qu'on entende le chef de l'État qui a réagi également autour de cette polémique. Écoutez Emmanuel Macron.
Je pense que c'est très important dans les moments que nous vivons que l'ensemble des voix puissent s'exprimer de manière libre. Et qu'après, chacun puisse combattre les arguments qui sont exprimés librement. Je ne partage pas la vision des choses, ni sur le conflit au Proche-Orient, ni sur beaucoup de choses de Jean-Luc Mélenchon. Mais je pense que c'est important qu'il puisse exprimer sa voix. Et c'est la même chose pour M. Zemmour. Et je pense que ça a toujours été la force de la République, c'est de nous battre pour que toutes les voix puissent s'exprimer, toujours dans un cadre respectueux, mais qu'elles puissent s'exprimer. quand bien même nous combattons leurs idées, mais on le fait d'argument à argument.
Alors moi j'ai juste une question, parce que j'entends les propos d'Emmanuel Macron qui sont très louables, c'est la défense de la liberté d'expression, mais que je sache, le préfet du Nord qui a interdit, enfin vous me rappelez le fonctionnement des institutions françaises, hein, mais le préfet il est sous l'autorité directe du chef de l'État, ou au moins, ou au moins de Matignon. Oui, donc de Matignon par extension, donc Emmanuel Macron il désavoue la décision du préfet là.
Il est évident que le préfet du Nord n'a pas pu interdire cette mobilisation ou ce rassemblement de Jean-Luc Mélenchon. C'est un rassemblement politique, il en a forcément référé au ministre de l'Intérieur,
qui est du Nord,
à minima, qui est en plus du Nord. Donc Gérald Darmanin a nécessairement validé cette décision. Est-ce qu'Emmanuel Macron était au courant, ou est-ce que là, il rappelle un peu à l'ordre son ministre de l'Intérieur en lui disant « tu as fait une faute en interdisant ce rassemblement », je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une décision politique qui a été prise au sein du gouvernement.
Oui, donc Emmanuel Macron fait un peu semblant de s'étonner.
Julien, quand on sait comment fonctionne le système,
dites-moi.
On est en campagne électorale,
oui.
Ultra sensible. Cette affaire couvre depuis plusieurs jours. Plusieurs parlementaires de tous bords, présidents de région, ont demandé l'interdiction. D'accord ? Donc c'est
une
affaire politique. Qu'on explique que le préfet tout seul a pris la décision est une vaste blague. À minima, naturellement, le ministre de l'Intérieur est prévu, même s'il est en Guadeloupe, le téléphone fonctionne. Mmh. Mais il n'y a pas une décision dans cette république bananière française, monarchique, qui ne remonte pas à l'Élysée. Il n'y a pas une décision qui ne passe pas par l'entourage direct du président de la République. C'est comme ça.
Donc Emmanuel Macron nous prend pour des imbéciles.
Pour des burnes, oui.
D'accord.
Mais la manière est monarchique, c'est pas pareil.
Et en plus, mais attention, y a, tous les enfants ne sont pas couchés à cette heure-là, Pierre.
Mais
Éric Tegner. Éric Tegner.
Je me permets une réflexion plutôt d'ordre politique, c'est que Emmanuel Macron aujourd'hui, il a un problème, c'est quand même Glucksmann.
Exactement.
Donc aujourd'hui, il donne de l'air à Jean-Luc Mélenchon.
Enfin, c'est aussi M. Bardella. Hein,
On en parle autant. Non, voilà. Parce qu'aujourd'hui, Jordan...
Elle regarde dans le rétro, Mme Hayet,
qu'il est 4 points ou pas. Oui, il peut y avoir l'inversion des courbes qui peut se passer dans les semaines à venir.
Puis, prend,
donc là, on entend enfin parler justement de la liste de Jean-Luc Mélenchon. Rima Hassan, on lit aussi dans la presse qu'en fait, elle est presque vue comme une sorte de tête de liste. Elle se sentait obligée, lors de son discours aujourd'hui, de saluer Manon Aubry. Donc ça donne de l'air. Il passe pour la victime. Et à gauche, ça fonctionne excellemment. Et là-dessus, c'est une stratégie. On sait très bien qu'Emmanuel Macron, là-dessus, est un habitué à jouer de cette façon. On l'a vu aussi sur d'autres choses à droite.
Encore un dernier mot sur cette interdiction. Je me dis aussi que, en fait, elle est vraiment contre-productive parce qu'elle ne vaut victoire pour personne.
Pour Jean-Luc Mélenchon.
Oui, elle le victimise et puis ça fait finalement que renforcer les convictions de ceux qui adhèrent au discours de Jean-Luc Mélenchon.
Au-delà même des circonstances politiques.
C'est tout bénéfice pour LFI, cette interdiction.
Au-delà des bénéfices, je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même de l'état du pays des Lumières, du pays où on a inventé la discorde civilisée.
C'est un pays où le débat n'existe plus.
Où il y avait Sartre et Aron, même, il n'y a pas encore, c'était pas au XVIIIe siècle, ça. Si vous voulez, où
maintenant, il y a Elisabeth et Usaï.
C'est pas mal.
Mais il y a des anathèmes, des gens qui brandissent des croix ou des gousses d'ail, vous prenez les métaphores que vous voulez, si vous voulez, et qui, pendant des années, mais il y a quand même...
On est à l'ère de l'insulte et plus du débat.
Il y a quand même quelque chose qui a changé, c'est que pendant des années, comme... pardon, j'en ai un peu plus que vous, malheureusement.
Si peu.
Si vous voulez, moi, je me rappelle de périodes où ils arrivaient à faire taire des gens. Toute cette bien-pensance, par exemple, des gens comme Taguieff, à un moment, il a été totalement exclu du débat. Alors, c'était Louis Plenel qui avait lancé l'appel à la vigilance. Pourquoi ? Parce qu'il avait été publié dans un livre en italien, un éditeur italien avait publié un texte de Taguieff et un autre d'Alain de Benoît à côté. Eh bien, Taguieff, enfin, ça a été... Ils arrivaient à le faire. Aujourd'hui, ils peuvent traiter d'extrême droite la terre entière. Si vous voulez, ça ne produit en réalité rien d'autre que chez eux. C'est comme des slogans qu'ils se répètent, si vous voulez. C'est des espèces de mantras magiques et maléfiques. Voilà. Ils sont d'extrême droite, ils sont fascistes.
Ils avaient fait interdire une conférence de Geoffroy Lejeune à Lille aussi, il y a quelques années, je m'en souviens bien.
C'est vrai. Bah, si, avec ça, oui. Et Madame Berger-Blaclair également.
Je ne suis pas du tout d'accord avec cette analyse. Aujourd'hui, on est dans quelque chose de beaucoup plus sournois. La bien-pensance, elle s'exprime tous les jours sur toutes les chaînes publiques. C'est comme ça.
Mais le débat n'est plus possible.
Mais le débat est très difficile.
Il y a d'autres médias.
Je peux vous dire que moi, je viens ici, mais alors que j'ai quelques compétences sur quelques sujets qui sont parfois reconnus, mais j'ai énormément de mal à écrire ou à être entendu en dehors de ce qui est considéré comme maintenant, ça y est, c'est la droite. Et donc, ce blocage, il persiste, Elisabeth.
Tous ces gens qui demandent la fermeture de CNews n'ont même pas le courage de venir s'expliquer ou débattre sur ces plateaux, sur lesquels je le rappelle, et tout le monde le rappelle sur cette antenne, ils sont les bienvenus. Jean-Luc Mélenchon est le bienvenu sur ce plateau quand il veut pour débattre avec les observateurs et les politiques qu'il souhaite. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire.
Le jour où des gens comme moi seront invités à France Inter pour s'exprimer, dire quelque chose d'autre
ça, Gilles-William Godmadel,
que la rédaction habituelle de France Inter, là je commencerai à y croire. Mais qu'on n'aille pas me dire que l'omerta a été levée dans ce pays.
Bon.
Pas du tout.
Bah, il y a quand même beaucoup plus de médias.
La preuve, c'est qu'ils veulent la mort de cette chaîne.
Oui, mais justement,
mais ils ne l'auront pas.
Elle est pas morte.
Ils ne l'auront pas.
Justement.
Allez, on avance avec ce drame à Grande-Synthe, si vous le voulez bien. Deux mineurs, désormais, sont devant les enquêteurs dans le Nord après l'agression mortelle à Grande-Synthe dans le Nord dans la nuit de lundi à mardi. Après un ado de 14 ans, c'est un garçon de 15 ans qui a été interpellé hier. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à ce passage à tabac de Philippe, la victime de 23 ans. Philippe a été retrouvé, je le rappelle, totalement inanimé. La bouche, les paupières, le nez maculé de sang, le visage déformé. Cette photo que vous avez peut-être vue sur Twitter, et si vous ne l'avez pas vue, c'est terrible. Et les trois agresseurs lui ont enlevé ses chaussures, son pantalon avant de prendre la fuite. Les habitants sont évidemment sous le choc. Je voudrais juste qu'on voit les derniers éléments de l'enquête, notamment grâce à notre service police-justice qui a pu les recueillir. On en sait plus aujourd'hui sur ce qui a pu se passer. Les explications de Camille Guédon.
Piégé. Puis violemment tué. Philippe, âgé de seulement 22 ans, a été retrouvé gisant sur le parking d'un supermarché de Grande-Synthe dans la nuit de lundi à mardi, avant de succomber à ses blessures mardi soir. Pour l'instant, deux suspects âgés de 14 et 15 ans ont été placés en garde à vue et la piste du guet-apens est privilégiée. Ils ont expliqué avoir créé le profil d'une jeune fille sur un site de rencontre et donné rendez-vous à un jeune homme pour, disent-ils, le punir. Ce qui pourrait expliquer pourquoi il a été retrouvé à terre avec le pantalon baissé sur les chevilles. Désormais, les policiers doivent déterminer si les suspects ont bien donné rendez-vous à Philippe ou à une autre personne. Car au moment de l'agression, Philippe était au téléphone avec un ami qui a entendu les instants avant le passage à tabac. Les agresseurs lui auraient demandé s'il était sur un site de rencontre, ce à quoi Philippe aurait répondu « Non, je suis avec un ami au téléphone ». Le mineur de 14 ans est suspecté d'avoir été le plus violent. Selon nos informations, ces deux jeunes sont décrits comme issus de milieux familiaux très compliqués. Des investigations sont actuellement en cours pour savoir si les suspects sont liés à d'autres agressions, notamment celle d'un homme de 39 ans qui a subi des violences deux jours avant l'agression de Philippe.
C'est pas facile, moi je travaille.
Alexandre Devecchio, Grande-Synthe, c'est 20 000 habitants. Hein. C'est très difficile d'imaginer une telle barbarie pour les habitants. D'ailleurs, on en entendra quelques-uns dans un instant. Mais d'abord, sur ces éléments de l'enquête, massacrés par des gamins de 14 et 15 ans.
Il y a plusieurs éléments, je dirais, qu'on retrouve dans d'autres affaires, c'est-à-dire une certaine démesure dans la violence. Parce que avant, les bagarres de bande ou les bagarres, tout simplement, ça pouvait exister. Les rixes, comme certains disent... Aujourd'hui, on n'est pas devant une rixe, on est devant un lâchage et une violence quasi animale qui se déchaîne. Donc ça,
et une punition.
C'est le premier élément.
C'est les mots qui sont utilisés en garde à vue.
Ça me rappelle le mot punition. Alors, va falloir attendre d'avoir d'autres éléments, mais ça me rappelle les fameux crimes d'honneur qui sont des crimes du déshonneur. Mais
exactement.
C'est un peu la même logique.
Exactement.
Parce que si je comprends bien les premiers éléments de l'enquête, on tend un appât. Finalement, à un jeune homme qui va rencontrer une jeune femme et on le punit de l'avoir désiré.
Je résume en trois lignes. Un profil de jeune femme est créé. Je résume en trois lignes, Alexandre, et je vous rends la parole. Un profil de jeune femme, on l'a vu dans le sujet, est créé sur une appli de rencontre pour donner rendez-vous à un homme, pour le punir. C'est ce que disent les ados en garde à vue. Ce qui pourrait expliquer le fait que son pantalon était baissé quand il a été retrouvé. C'est terrible, mais ce sont les faits. Et l'enquête doit déterminer donc si Philippe était bien l'homme visé en question ou s'ils se sont, je le mets entre guillemets encore, trompé de victime. C'est à vomir.
Ouais, c'est à vomir, mais ça traduit une idéologie très étrange, extrêmement pudibonde, je ne sais pas comment le dire, mais...
Ça traduit des mœurs importées, quand même. Excusez-moi, d'où qu'elles viennent, il faut arrêter de se cacher.
J'attends,
ça sent...
On ne peut pas attendre.
Mais bien sûr,
ça sent la bilice des mœurs, disait Joseph Massescaron tout à l'heure chez Pascal.
Même si c'est des Bretons, les mœurs sont importées.
Mais bien sûr.
Les comportements sont apportés.
Non, mais tu as raison, je cherchais le mot police des mœurs.
Ces brigades des mœurs qui sévissent maintenant dans de nombreux quartiers, témoigne quand même d'autre chose que de l'hyperviolence, des comptes fichas, de TikTok et
mais
de
là,
tout ça.
On ne sait pas.
On est bien d'accord.
Hein. Là, je ne parle pas, pardon, juste.
Oui, non, mais moi,
je précise que je ne parle pas que de Grande Sainte, qu'on a eu une série.
Bah oui,
Chemsedine, Samara.
Pas en même temps, pardon. Il y a un conflit de normes et un conflit évident anthropologique. Si vous voulez, entre eux.
De valeurs, de culture.
De normes. C'est même plus que des valeurs, si vous voulez.
De codes, de règles,
si vous voulez, le pouvoir sur le corps des filles, chez nous, si vous voulez, ça n'existe pas.
Pierre Lelouch.
Pardon, Pierre.
Vous êtes trop bon.
Je vous en prie.
Merci beaucoup. je n'ai pas l'identité des auteurs de ça. Donc c'est très difficile de monter des scénarios sur pourquoi du comment.
On évoque un milieu social très défavorisé, très compliqué hein, déjà. Je ne sais pas, je vous dis les éléments qu'on a.
Quoi. Ils peuvent venir de n'importe où, personne ne sait. Oui. Si ce que sous-entendait Elisabeth, si j'ai bien compris dans sa longue dissertation, c'est que ça pourrait être...
Trop aimable.
Ça pourrait être lié à l'islamisme radical et à l'entrisme islamique dans le pays. Si c'est le cas... Moi, ce que j'espère que le gouvernement va faire, puisque M. Attal, je crois, s'est exprimé là-dessus aujourd'hui, c'est qu'on appelle un chat un chat.
On va l'entendre.
Si on a un problème, et on a un problème, malheureusement, mais qu'on donne les faits aux gens, c'est-à-dire qu'il y a eu tant de cas de meurtres, d'attaques, d'enfants de tel âge, pour ces raisons-là, j'attends que les autorités religieuses musulmanes se mobilisent. On a mis des fatwas contre Salman Rushdie. On n'en a pas mis comme contre al-Baghdadi, par exemple, le patron de Daesh. Vous ne savez pas ça. Mais le patron de Daesh n'a jamais reçu de fatwa des plus grandes autorités de l'islam, y compris Al-Azhar au Caire. Moi, j'attends que les autorités de l'islam de France, si effectivement le gouvernement est capable de dire aux Français, voilà, il se passe tel.
Ce n'est pas forcément des musulmans qui ont commis ce meurtre. C'est juste que ce sont des gamins qui sont dans un autre univers, dans d'autres codes.
Non, mais.
Et qui.
Dans l'omerta, parce que dans les cas précédents, il y a eu des problèmes de sexe, de crimes d'honneur, qui sont liés à la pratique de la religion islamique dans des pays très durs comme le Pakistan. Alors si la France doit devenir le Pakistan, le gouvernement français a intérêt à le dire aux Français et à dire voilà ce que je compte faire et ce que j'attends des autorités religieuses.
Il est 23h.
Ce que je ferais moi si j'avais ce dossier à gérer. Un peu de transparence, un peu de clarté.
On poursuit la discussion dans une minute les amis. On marque une courte pause pour rappeler à nos téléspectateurs l'essentiel de l'actualité. Maureen Vidal.
Le choc dans un petit village du Bas-Rhin. Deux fillettes de 7 et 11 ans ont été blessées par un homme armé d'un couteau à proximité de leur école. Hospitalisées en urgence pédiatrique, elles en sont sorties depuis. L'assaillant a été interpellé par les forces de l'ordre après s'être débattu. Il s'agit d'un homme de 30 ans qui avait déjà fait 3 séjours dans des structures psychiatriques. Une enquête pour homicide volontaire sur mineur de 15 ans et rébellion a été ouverte. Direction la Guadeloupe pour lutter contre la délinquance. Gérald Darmanin a ordonné un couvre-feu pour les mineurs à Pointe-à-Pitre. Cette mesure inédite entrera en vigueur la semaine prochaine et pour une période de 2 mois. Selon la préfecture de Guadeloupe, l'archipel compte 6 fois plus d'homicides et 20 fois plus de vols à main armée que la moyenne nationale. Enfin, un homme arrêté en Pologne, soupçonné d'aide à la préparation d'un attentat contre Volodymyr Zelensky. Ce ressortissant polonais devait notamment collecter et fournir des informations au service de renseignement russe qui prévoirait une tentative d'assassinat sur le président ukrainien. L'homme a été placé en détention provisoire.
Merci beaucoup, cher Maureen. Je voudrais qu'on entende ces habitants de Grande-Synthe qui sont sous le choc après cet assassinat, enfin, ce qui semble être un assassinat et qui pour l'instant n'est pas qualifié comme tel.
Triste d'apprendre que dans une petite ville comme Grande-Synthe, on a des accidents aussi graves. C'est quand même anormal. Je pensais qu'on était quand même à l'abri avec cette ville où on est très très bien et puis où il n'y a jamais eu de gros gros problèmes.
Pourquoi lui? Pourquoi cet acharnement? C'est incompréhensible. C'est du jamais vu.
On se sent même pas en sécurité en fait dans notre propre quartier. On a vraiment beaucoup de problèmes par rapport aux petits jeunes qui sont ici. Mais moi ça fait 4 mois que je viens d'habiter dans le quartier ici. Et franchement, tout ce qui est police, tout ce qui est intervention, c'est zéro. Ils viennent, contrôle d'identité, ils repartent. Alors qu'il y a des jeunes qui roulent avec des quads, des buggies, ils ont fait écraser des enfants. C'est toujours le même cinéma, en fait.
Mais à la place des parents, ils doivent se demander ce qu'ils ont dans leur tête pour avoir fait une chose pareille.
Surtout que Philippe était un garçon très bien.
Éric Tegner, c'est effroyable parce qu'il ressort aussi des premiers éléments que celui qui a porté le plus de coups, celui qui a été le plus acharné sur ce pauvre Philippe à 14 ans. Comment se fait-il que autant de jeunes soient à la dérive? Parce que je ne vois pas d'autres mots, en fait.
Moi, je rejoins un peu ce que disait Elisabeth Lévy tout à l'heure. Et pour préciser un peu ce que j'ai compris dans ses propos, c'est que même si on ne sait pas véritablement l'identité de ces personnes, il y a un fait aujourd'hui, c'est que l'augmentation de la violence, je ne parle pas de l'existence de la violence, bien sûr qu'elle existe depuis des siècles, mais son augmentation, y compris dans les populations les plus jeunes, aujourd'hui, elle est favorisée et amplifiée par l'arrivée justement de populations immigrées qui importent des mœurs qui vont être différents, qui vont être plus violents. Et moi, ce que je note d'ailleurs dans ce qui se...
Mais c'est pas tout à fait ce que je voulais dire.
Quand on parle
dire.
Du breton, c'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, il y a des petits blancs. Il y a un peu des petits blancs aujourd'hui, ce qu'on peut dire à un Français, des Français de souche, qui se retrouvent à être confrontés à une forme de violence, où d'ailleurs, parfois, on peut, des parents peuvent avoir peur, justement, des fréquentations aussi de cela. Ça, c'est un fait qui existe, sans dire que c'est mais le cas ici. C'est ça que je voulais préciser.
Enfin, on peut imaginer qu'il y ait des petits Français aussi, qui soient dans des milieux, qui soient en perte de repère, qui soient dans des milieux sociaux, et qui dérivent dans l'ultra-violence. Ça existe là, aussi, je veux dire.
Là, on est sur autre chose. Là-dessus, qui s'est passé aussi à Romans-sur-Isère.
Permettez-moi, je précise un truc, pardon. Parce que c'est important, parce que, en fait, si vous voulez, nous, effectivement, il y a ce que vous avez dit, il y a une violence qui est de plus en plus désinhibée, le surmoi.
C'est la culture du vide.
La culture du moi-moi, la culture de j'ai le droit, tout ce que vous voulez. Mais il y a en plus, dans certains cas, dans beaucoup de cas, et souvent quand la question de l'honneur, de la sexualité, de je ne sais tout ce fatras, si vous voulez, autour du corps des femmes, autour de la sexualité des femmes notamment. Et là, si vous voulez, il y a souvent une dimension culturelle, si vous voulez, un choc des civilisations en quelque sorte, à bas bruit, qui se joue violemment parfois, pas violemment parfois, si vous voulez, qui se joue dans la séparation, et qui me semble être un phénomène en soi. Je ne dis pas ce que j'ai dit pour Grande Sainte, parce que je ne sais pas qui ils sont, mais si c'est vraiment lié à ce que vous avez dit, le désir de l'un, etc., voilà, c'est pas des culs, c'est importé comme idée.
Mais d'ailleurs, juste pour compléter, parce que pour terminer, moi, ce qui me marque dans cet acte, c'est la même chose qui s'est passée à Romans-sur-Isère il y a quelques semaines, où le jeune a été poignardé dans le dos. Aujourd'hui, on n'a pas affaire à des duels comme à l'époque où ils vont se retrouver.
Après, je rappelle que Romans-sur-Isère, le jeune qui est poignardé dans le dos, c'est parce qu'il tente de s'interposer dans une. Fin à Heinrichs.
Je suis en train de parler du fait que aujourd'hui, on a une violence chez les jeunes qui incarne la lâcheté.
C'est le culte de la violence.
Ils sont deux et ils sont lâches. Et c'est ça aussi qui est marquant de plus en plus dans les violences actuelles. Ils sont incapables de se dire on va aller se battre, on va régler un compte un contre un. Ça fonctionne toujours par bande. Ce sont des gens aussi qui ont de la frustration, qui vont essayer de l'exprimer là-dedans. Et ça, c'est ce qui est le plus marquant aujourd'hui dans la violence.
Je voudrais qu'on entende le président du Sénat qui s'est exprimé aujourd'hui, à l'aune, vous le savez, des 100 jours à Matignon de Gabriel Attal, de cette volonté du président de la République de convoquer un Grenelle sur les violences des mineurs et ces mesures donc annoncées aujourd'hui par le Premier ministre, on les décryptera dans un instant. Écoutez ce que dit Gérard Archer sur l'état de la violence, l'état de nos mineurs.
Nous avons besoin d'actes, nous n'avons pas besoin de nouveaux Grenelles, nous n'avons pas besoin de nouveaux débats. Nous avons besoin d'actes et des actes, notamment devant le Parlement, et des actes qui, j'allais dire, apportent une réponse à cette, pas simplement des civilisations, à cette perte de repères de notre société, qui naturellement est liée à la déstructuration des familles, mais aussi, il faut se dire les choses, à l'échec de la politique d'intégration. Et on voit bien dans les atteintes à la laïcité, et puis, pour partie, un cheminement lent d'une forme, j'allais dire, d'islamisme radical.
C'est bien, monsieur Larcher, j'ai envie de dire, et je m'adresse à vous, Pierre Lellouch, parce que c'est un petit peu tard pour faire ces constats.
Écoutez, la bonne nouvelle, c'est que au niveau politique, on commence à appeler un chat un chat.
Oui.
Prétend, d'autant qu'on est entré dans une période de très très grande turbulence. Il est en train de se passer des choses très vilaines autour de l'État islamique. Il y a une concentration de terrorisme du côté du Niger et du Mali, d'où on a été viré, qui va être extrêmement problématique pour notre pays. Et je crois qu'il y a un moment où il va falloir que le gouvernement français dise les choses. Et ne soit pas dans le déni. De même qu'il faut arrêter d'être dans le déni sur le fait que...
On dit beaucoup de choses, mais on voit assez peu d'actes, en fait.
Non, mais c'est important de dire les choses. Quand on a vous avez une très grande communauté musulmane en France, où il y a un tas de gens normaux qui veulent vivre parfaitement leur vie normalement, mais qu'il y a une minorité qui utilise la religion pour faire de l'entrisme islamique et faire de la violence, il faut que les autorités musulmanes et les autorités religieuses et l'État se parlent et qu'on dise ce qu'on va faire. Et pas qu'on laisse se venir les événements semaine après semaine, tantôt en appelant ça une rixe, tantôt en disant que c'est déséquilibré, tantôt en disant mais non, mais c'est pas vraiment ça.
Pourquoi est-ce que Pierre Lelouch, pourquoi est-ce que je parle de parole et d'actes? Pourquoi est-ce que je parle de parole et d'actes? Je vous disais, on va entendre Gabriel Attal tout à l'heure. Gabriel Attal qui réclame ce sursaut d'autorité, qui appelle la nation à se mobiliser contre la violence des jeunes. Très bien. On va en discuter dans un instant des annonces du Premier ministre. Mais il y a un moment, quand deux actualités s'entrechoquent de cette façon, on se dit, alors je vais pas reprendre le mot que vous avez utilisé tout à l'heure, je vais reprendre le fait qu'on nous prenne un peu pour des imbéciles. Achille Tigheim, vous vous souvenez de cette image? Le mineur qui est sur sa moto et qui percute de plein fouet un policier municipal. Si vous ne l'avez plus en tête, on va vouloir mettre avec Thomas Leroy en régie. Il lui fonce dessus à moto. Eh bien aujourd'hui, c'est pour ça que c'est insupportable en fait d'entendre des discours aussi fermes et de voir que ce jeune est ressorti de sa garde à vue aujourd'hui avec un contrôle judiciaire et un procès qui se tiendra au mois de juin. Donc pour ceux qui souhaitent que je le rappelle, un contrôle judiciaire, ça veut dire que vous êtes libre tout simplement. Pour le sursaut d'autorité, on repassera. Oui, Johan. Johan et Elisabeth.
Mais les responsables politiques peuvent tenir des discours de fermeté et ils le font. Vous avez raison. Les paroles sont souvent là, notamment de la part de Gabriel Attal, mais les actes peinent à arriver. Mais néanmoins, vous pouvez avoir le discours d'autorité que vous voulez. Vous pouvez répéter à l'envie « notre main ne tremblera pas » puisque c'est une expression qui est à la mode aujourd'hui, notamment de la part de la ministre de l'Éducation.
Le pas de vague, c'est fini.
Le pas de vague, c'est fini. Notre main ne tremblera pas, etc. Mais comment est-ce que vous allez contraindre les magistrats qui, eux, ont quand même en partie une idéologie bien ancrée, l'idéologie qui consiste à dire que les victimes, que les coupables sont en fait des victimes, que la culture de l'excuse, toujours trouver des excuses aux coupables et donc infliger des peines qui ne soient pas très sévères.
Ça vous étonnerait de le revoir demain, après-demain, sur une moto en train de faire un rodéo, ce jeune?
Le magistrat qui, là, en l'occurrence, a placé ce mineur sous contrôle judiciaire, sans doute aurait-il pu décider d'une peine plus grave. S'il décide de ne pas le faire, c'est en conscience qu'il le fait. C'est son idéologie.
C'est insupportable pour les Français qui réclament des sanctions pénales dures contre les auteurs de rodéo. Sondage CSA pour CNews publié aujourd'hui. Faut-il durcir les sanctions pénales contre les auteurs de rodéo? Oui, à 93%. On va le voir s'afficher dans un instant. Les Français veulent quelque chose. Le gouvernement donne tout autre chose. C'est un mineur de 17 ans qui n'a pas fait juste que de rouler avec un véhicule non homologué. Il a percuté et blessé un représentant de l'ordre public, un représentant de force de l'ordre. Ça veut dire que ce jeune de 17 ans, et d'ailleurs il a raison, il n'a peur de rien, il n'a pas peur de la police, il n'a pas peur de la prison, et il a 100 fois raison.
Ah, j'ajouterais, pardon.
C'est une tentative de meurtre, je comprends pas.
C'est une tentative d'homicide.
C'est une tentative de meurtre contre personne dépositaire de l'autorité publique. Je ne comprends pas ce que fait la justice dans cette
situation. Elisabeth Lévy.
Non, mais j'ajouterais, si vous voulez, que même quand on n'a pas, si vous voulez, on ne devrait pas avoir besoin d'avoir peur de la police pour pas avoir spécialement envie d'aller percuter
aussi,
des gens
bien sûr.
Avec une moto. Oui, mais pourquoi je vous dis ça? Ça a l'air d'être altruisme. Parce que le problème, il est peut-être déjà là. Maintenant, je voudrais quand même revenir sur la journée qu'on a eue.
En fait, il n'a pas du tout en tête ce qui pourrait lui arriver.
Alors, la journée qu'on a eue à coup de nous ne céderons pas, notre main ne tremblera pas. Et déjà, dès qu'on est dans le registre, dans ce registre sémantique-là, on peut se méfier. Vous savez, les linguistes disent le mot chien ne mord pas, le mot autorité n'a aucune chance d'inspirer le moindre respect. Mais encore une fois, je pense que, on est toujours dans le registre gentillet. J'ai entendu tout à l'heure Gabriel Attal dire la laïcité. Il faut leur dire que la laïcité, c'est pas une contrainte, c'est merveilleux, c'est une liberté. Mais non, bon sang de bonsoir.
Ils savent pas ce que ça veut dire.
Il faut leur dire qu'il y a en France des contraintes. Il faut le dire clairement, qu'en France, tu touches pas à ta sœur. Et si tu touches à ta sœur, il y a des pays où ça se passe très bien, qui sont le Pakistan, l'Afghanistan.
Mais c'est déjà là, tu touches pas à un policier municipal.
Tu touches pas à un policier municipal. Non mais
restons dans le factuel, dans le sujet concret. Parce que
on a parlé toute la journée de l'autorité. Excusez-moi, j'ai entendu ça la journée.
Monsieur Julien, une scène comme ça est impensable au Maroc. Voilà, je vous le dis tout de suite, impensable en Tunisie, impensable en Égypte.
Mais parce qu'on a peur de l'autorité.
Impensable aux États-Unis aussi. C'est-à-dire que le jeune qui s'amuse à ça, il est mort. Parce que la police, elle est intraitable. Quant à la Tunisie au Maroc.
Enfin, il n'y a pas moins de criminalité aux États-Unis.
Oui, non, mais vous avez vu là. Certes, il y a beaucoup de criminalité, mais il y a un respect pour le policier. Les gens ne vont pas tuer des policiers volontairement.
Ils ont peur du policier.
Ils ont peur des policiers. Et quand un policier vous dit de vous arrêter, vous avez intérêt vraiment à vous arrêter parce que sinon vous êtes mort. Bon, je dis pas qu'il faut qu'on fasse ça du tout, mais je dis que ça fait des années qu'on nous parle de rodéo urbain, de gens qui percutent la police, et la police a peur d'arrêter les gens. On en est là maintenant. Donc il faut peut-être changer l'équation et faire en sorte que la peur change de camp.
Pour l'instant, c'est l'impuissance programmée de l'État.
Oui, non, mais je rejoins ce qu'a dit Elisabeth Lévy, parce que Gabriel Attal, je trouve qu'il est même pas ferme. Certes, il est peut-être plus ferme que son aile gauche.
On va l'entendre juste après.
Mais il y a les mots qu'il dit.
Il est plus ferme que Madame Belloub.
Oui, voilà. C'est déjà pas mal, vous allez me dire. Mais il y a les mots qu'il dit. Alors la laïcité.
Ce qui est dommage, c'est qu'elle lui a succédé à l'éducation.
Brandi comme un totem, jamais défini, souvent mal défini. Et moi, je crois que c'est pas un problème de laïcité, c'est un problème de mœurs, d'identité,
de liberté.
D'autorité, de liberté. Puis il y a des mots qui sont totalement absents. Alors le mot justice. Bon, je crois qu'il y avait le garde des Sceaux à côté. Mais il ne nous a pas expliqué ce qu'il faisait pour renforcer l'arsenal judiciaire. Et puis les mots islam et immigration étaient totalement absents de son live. Alors que il répondait à tous les série de violences, de meurtres, même
quand il était à Viry-Châtillon.
Il était à Viry-Châtillon et tous avaient un lien avec l'islam. Non, donc c'est quand même extrêmement fort.
Il le fait ce soir.
Si.
Il a parlé de guerre de religion.
Ce soir, il rectifie quand même.
Il rectifie, mais c'était quand même énorme.
Il a parlé de guerre de religion et oui, sur BFM, il a un peu parlé.
Ce soir, Gabriel Attal dit que l'entrisme islamiste est de plus en plus présent à l'école avec la volonté d'imposer les préceptes de la charia.
Alors il l'a fait ce soir, mais sous une forme de pression médiatique. Non, c'est pas un réflexe naturel chez lui.
Alors que
le diagnostic n'est pas fait de manière profonde, si vous voulez, chez certains hommes.
Pierre, je vais vous rendre la parole. Je voudrais juste qu'on voit le sujet, puisqu'on parle beaucoup de Gabriel Attal. Je voudrais que nos téléspectateurs voient ce qui s'est passé aujourd'hui pour le 100e jour à Matignon, donc du Premier ministre, qui a choisi la ville endeuillée de Viry-Châtillon, cette ville de l'Essonne récemment marquée, donc on le rappelle, par la mort de Chemseddine, 15 ans, passé à tabac près de son collège. Pour prononcer, donc, Gabriel Attal, un discours sur l'autorité au cœur de la République, le Premier ministre qui a proposé plusieurs mesures pour tenter de juguler la violence chez les adolescents. Regardez cette présentation de Sarah Varni, on en discute.
C'est un déplacement sur le thème de l'autorité. Le Premier ministre Gabriel Attal est arrivé vers 10h30 ce matin à la MJC de Viry-Châtillon dans l'Essonne, une ville récemment marquée par le décès le 5 avril dernier du jeune Chemseddine, 15 ans, passé à tabac la veille près de son collège. Le Premier ministre a pu échanger avec certains jeunes et encadrants, accompagnés notamment du ministre de la Justice et du maire de la ville, Jean-Marie Villain.
Le simple fait de faire d'avoir des actions dans la ville qui sont nécessaires pour la ville, mais aussi de se rendre compte que quand on fracasse un pot de fleurs dans la ville, ben, ça nécessite du boulot, et que quand on l'a rattrapé ou quand on a nettoyé un tag, ça
c'est quoi la suite ? Tu salis, tu nettoies.
Dans son discours prononcé à l'issue de ces rencontres, Gabriel Attal appelle à un sursaut d'autorité.
Comment accepter qu'on touche, qu'on salisse, qu'on s'en prenne à ce qu'il y a de plus sacré en République ? Comment accepter cette spirale, ce déferlement, cette addiction d'une partie de nos adolescents à la violence ? Oui, je parle de spirale. Oui, je parle de déferlement. Oui, je parle d'addiction. Et non, on ne peut pas l'excuser.
Pour le Premier ministre, la contre-attaque de la République passe par 5 points. Responsabiliser les parents, réguler la dépendance des jeunes aux écrans, sanctionner les élèves perturbateurs, se pencher sur la question du fait religieux à l'école et enfin, sur le volet judiciaire, ouvrir le débat sur l'excuse de minorité. Le Premier ministre a annoncé donner 8 semaines pour faire aboutir le travail collectif de concertation souhaité par Emmanuel Macron, un Grenelle sur la violence des jeunes avec un point d'étape dans 4 semaines.
Pierre Lellouche, je vous le disais. Alors, moi, je me souviens de Charles Pasqua. L'insécurité doit changer de camp. Jean-Pierre Chevènement, qui dénonçait les sauvageons en parlant des mineurs multirécidivistes. Gérard Collomb, un peu plus récemment, pronostiquait ce jour où on vivrait non plus côte à côte, mais face à face. Gérald Darmanin, encore plus proche de nous. Il faut stopper l'ensauvagement d'une partie de la société. Je viens de défiler 30 années de ceux qui nous gouvernent, qui prononcent les mêmes phrases. Donc c'est pour ça qu'on revient à ce qu'on disait il y a 10 minutes. Ok, on peut nommer les choses, mais il y a un moment, des actes, monsieur Lellouche, des actes.
Mais je sais bien, et c'est pour ça que ça va...
Est-ce que vous croyez aux paroles du Premier ministre ?
Non. Non. Ce que je crois, c'est qu'il a fait une avancée ce soir à BFM, puis il a compris dans la chaîne concurrente, il a parlé d'entrisme islamique. Mmh. C'est la première fois, je crois, qu'un Premier ministre dit ça en France. Et en ce sens, c'est un vrai progrès. Maintenant, derrière, il faut que ça suive.
Moi, je me souviens de la dernière fois qu'il a tenu un discours de fermeté, c'était à l'éducation nationale. Ça a duré 15 jours.
Ok, peut-être. Enfin, je ne suis pas franchement là pour le défendre. Oui. Ce que je crois, c'est que c'est un gouvernement extrêmement faible, qui n'a pas de majorité et qui ne peut pas tenir.
Mais c'est et qui tire des constats après 7 ans de gouvernance.
Je veux revenir à votre interrogation sur les 30 années écoulées.
Elisabeth, vous reprendrez.
Ce sont 30 années de déni.
Total.
Nous sommes. Les chiffres de l'année
dernière. Non, 30 années de mots.
Voilà. Mais de,
non,
30
non, de
lois,
déni aussi.
30 lois sur l'immigration, Julien. L'année dernière, au bout de 30 lois, vous savez à combien on était ? 330 000 entrées légales. 150 000 demandeurs d'asile. Comment voulez-vous que le système tienne ? Avec un demi-million de personnes qui rentrent chaque année, souvent dans des conditions extrêmement précaires, venant d'endroits dévastés, où il n'y a rien. Il faut voir ce que c'est que le Niger ou le Mali. Il faut voir le type de gens qui arrivent. Qui arrivent
Eric a fait
des pays,
différentes routes de migration, il peut nous en parler aussi.
Que ça se passe bien, ça ne peut pas. Donc vous avez une énorme poussée d'insécurité. On a mis des années dans ce pays à admettre qu'il y avait un lien entre insécurité et immigration. Des années. On ne pouvait même pas le dire.
Est-ce qu'il n'est pas déjà
alors
trop tard?
Alors que 80% des types qui sont en prison
viennent
de l'immigration.
Qui continue.
25% sont des étrangers.
Il y a une idéologie derrière tout ça qui continue
c'est
à
le
faire...
déni qui tue ce pays.
Pardon, excusez-moi. Je disais donc de derrière tout ça, il y a une idéologie qui continue à faire des ravages. Parce que pourquoi ce déni quand même? Parce qu'ils pensent, ces gens, que l'immigration est un bien en soi. Vous vous rappelez, Pierre, ce slogan qu'on entendait quand j'étais à Sciences Po, une chance pour la France. L'immigration est une chance pour la France. Tout le monde répétait ça, c'était merveilleux.
Et certains continuent de le dire.
Hein. Ça allait être merveilleux. Je vous rappelle, c'était 1998. C'était
mais
pas non plus.
Continue, hein.
Donc, mais au MEDEF, on continue.
Et donc, non.
Oui. Et oui. Oui, mais si, mais il y a un moment, il faut arrêter de se voiler la face. Mais ce pays, il avance aussi en partie grâce à la migration.
J'ai quand même une question à vous poser sur la question de l'entrisme islamique, parce que contrairement à Pierre, je ne crois pas, et d'ailleurs la plupart des études, toutes les études ne croient pas non plus, qu'on ait affaire aujourd'hui à une petite minorité. Dans un récent sondage, si vous voulez, vous avez alors 52% de tous les lycéens qui trouvent que la critique des religions, c'est pas bien. Chez les lycéens musulmans,
c'est du conditionnement.
Musulmans, c'est 76%. Ah oui. Donc, si vous voulez, ma question est simple. Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Est-ce que, dans le fond, on peut encore...
Et puis, il y a une chose qui m'amuse beaucoup aussi. Il y a quelque chose qui m'amuse beaucoup. Je vais la poser de ce côté de la table. Qu'est-ce qu'il y a?
Non, je viens de poser une question, donc vous vous foutez complètement.
Ah non, pardon, c'est ce que je pensais déjà à la mienne. C'était quoi? Reposez-la. Il n'est pas trop tard. Mais si, justement, si, j'ai répondu à ça. Si, j'ai peur qu'il le soit.
Ah bon, d'accord, pardon.
Tard, mais bon, mais ma réponse finalement apportera peu de choses à l'avancée de la société. Hein. Moi, ce qui m'amuse et ce qui est gros comme le nez au milieu du visage, c'est qu'on prononce des discours de rupture à 2 mois d'une élection. C'est des actes de rupture, encore une fois, que les gens attendent.
Ça fait 7 ans qu'ils sont au pouvoir. Donc, Gabriel Attal, si vous voulez, pas le plus responsable.
Ça fait 40 ans qu'on fait rien, mais là, tout va changer.
Ouais, c'est pas le plus responsable dans l'histoire, puisqu'il vient d'être nommé Premier ministre. Et effectivement, il faut bien qu'il fasse, son boulot en donnant des actes. Mais effectivement, ça fait 7 ans qu'ils sont au pouvoir. 7 ans aussi qu'ils sont en même temps, en permanence. Que Emmanuel Macron, et c'est lui le vrai responsable de tout ça, a jamais mis de diagnostic sur tout ce qui se passait, ni fixer un cap clair. Donc, Gabriel Attal est plein de bonne volonté, mais il apparaît déjà démonétisé, parce qu'il est même, je suis même pas sûr qu'il soit aujourd'hui soutenu par Emmanuel Macron.
Je voudrais juste entendre un extrait de Gabriel Attal aujourd'hui à Viry-Châtillon sur l'autorité qui est trop souvent défiée, selon lui. Sans blague.
L'autorité et la règle commune sont trop souvent défiées par certains jeunes. Cela nous rappelle à ce sentiment qu'une partie de nos adolescents glisse lentement vers une forme d'isolement, d'individualisme, et parfois même vers le pire, vers une forme de violence déchaînée, morbide, sans règles. Je dis bien une partie de nos adolescents, et une partie seulement, car c'est bien une minorité d'adolescents que les Français ne comprennent plus. Cette part, cette minorité de jeunes et d'adolescents que les Français ont le sentiment de trop voir dans le poste, rimer avec perte de repères, contestation des règles les plus élémentaires et parfois même déchaînement de violence.
Et puis Gabriel Attal, donc, pour accompagner ce déplacement et ce 100e jour synonyme de restauration de l'autorité pour les jeunes, a rappelé les différentes mesures et annonces qui allaient être faites sur ces éléments qu'il a publiés sur ses réseaux sociaux. Alors ce qu'on retient notamment sur l'école, c'est tout en bas de l'écran. Avant qu'un jeune ne tombe dans la délinquance, pour l'éloigner de ses mauvaises fréquentations, une place en internat sera proposée aux parents. J'ai noté également dans la deuxième page, vous allez voir, alors c'est les réseaux sociaux qu'il faut mieux contrôler, les fameux écrans qui sont l'alpha et l'oméga de la violence des mineurs dans notre pays, selon le gouvernement. La justice des mineurs, alors ce qui est intéressant de voir, c'est la dernière mesure dans la justice des mineurs, c'est le lancement d'une réflexion pour faire évoluer l'excuse de minorité et créer une comparution immédiate pour les mineurs de 16 à 18 ans. Et puis, vous le voyez également, on en reparlera dans quelques instants, la responsabilité des parents qui semble également être au cœur de ces mesures proposées par le gouvernement. Ces réponses, elles vous paraissent adaptées à la situation, Eric Tegner?
J'ai envie de dire OK boomer, ça veut dire que okay, en fait lorsqu'on les entend
ça veut dire
parler. Non mais lorsqu'on les entend
c'est pas un boomer hein, le premier ministre.
Tout à l'heure quand ils disent tu casses, tu répares. Non mais tes spectateurs, ils sont morts de rire. Et non, je ne pense pas aujourd'hui que ce qu'ils sont en train de dire soit complètement transgressif en fait.
Mais ils cherchent pas à être transgressifs.
Ils parlent
oui, ils veulent renverser la table.
Comme si au sein d'une école, il y avait 2-3 infiltrés qui commencent un peu, non? Ça devient en fait un début de majorité. Oui. Effectivement, lorsque 50% des jeunes musulmans aujourd'hui pensent que le 7 octobre, c'était pas un attentat terroriste, franchement,
c'était un acte de résistance.
C'est pas une multiplication des cours d'éducation civique donnés par des professeurs dont le tiers vote pour Jean-Luc Mélenchon, donc soutient ce qu'on est en train de dire, qui va changer grand-chose en fait. Je pense
qu'on rigole, mais c'est pas drôle. Hein.
C'est comme les juges. Il faut mettre des peines planchers parce que le juge, peu importe son idéologie, il a pas le choix. Ouais. Et le professeur, moi, j'aimerais bien aussi qu'il y ait des contrôles.
Peine planchers, là, n'est pas question.
C'est pas bien vu dans ces mesures. Parce qu'il faut toujours soutenir les professeurs. Mais moi, j'aimerais aussi qu'on contrôle. Qu'à un moment donné, bah les professeurs aussi, bah ils tiennent pas de discours, parce que c'est eux qui, depuis des années, moi, à chaque fois, je me fais taper dessus quand je le dis, qui sont en train d'expliquer que c'est la faute de la France, de la colonisation, toute cette victimisation antiraciste, etc. C'est les profs, c'est les manuels scolaires qui l'ont fait. On en est loin.
Alexandre Devecchio, c'est avec tout ça qu'on renverse la table?
Ouais, non, mais pour.
En tout cas, tout ça demande beaucoup d'argent, hein.
Pour aller dans le sens de ce que disait Eric.
Un petit peu, ouais.
Ça me rappelle, je suis pas un boomer, mais ça me rappelle quand j'étais à l'école primaire, il y avait une charte de bonne conduite. Et en fait, excusez-moi, mais ça fait penser à ça.
C'est le règlement intérieur, quoi.
Il commençait à y avoir des problèmes, et en fait, on avait fait une charte, les instituteurs avaient fait une charte de bonne conduite.
C'est pas vrai.
Il fallait recopier 10 fois quand on n'avait pas bien agi. Et je trouve que malheureusement, ça me fait penser à ça. Ça fait un peu document, règlement intérieur qui circule dans l'école. Et effectivement, il y a un décalage par rapport à la gravité, au tragique des événements que nous avons vécu ces dernières
semaines. Vous avez évoqué ensemble cette fameuse déclaration tout à l'heure chez nos confrères de Gabriel Attal qui admet une bonne fois pour toutes l'entrée. Religieux qui est en train de gagner nos écoles. Écoutez.
Vous avez, dans beaucoup d'endroits en France, des groupes plus ou moins organisés qui cherchent à faire ce qu'on appelle un entrisme islamiste. Et donc oui, les préceptes de la charia, notamment dans nos écoles. Vous avez en face de vous, Madame de Malherbe, le ministre de l'Éducation nationale, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, qui a pris une décision importante, interdire le port de l'abaya et du camis dans nos établissements scolaires, qui étaient utilisés pour détourner la laïcité, avec des groupes organisés qui appelaient des jeunes filles à porter une abaya à défaut de pouvoir porter un voile pour manifester ostensiblement leur religion et couvrir leur corps dans l'école de la République. J'ai pris la décision de l'interdire. Sur ce sujet-là, je peux vous dire que ma détermination, elle est absolue.
Il dénonce donc cet entrisme islamiste.
Non mais Gabriel Attal, on est à 2 mois des élections européennes.
Ben c'est ça.
Si vous voulez, la laïcité, c'est le point sur lequel les Français le font le plus confiance. C'est-à-dire que quand il était ministre de l'Éducation nationale, il a interdit l'abaya, il a été ferme sur ces sujets-là. Donc il essaie de capitaliser.
Oui, enfin il a prévu des groupes de niveau qui n'existeront pas.
Non, mais, si vous voulez, politiquement, il essaie de capitaliser sur un point où les Français lui donnent plutôt crédit. Il n'y en a pas beaucoup. Donc
non.
Effectivement, il se tourne vers ce point-là naturellement, mais
c'est la première fois.
Il y a une réflexion quand même que je ne peux pas m'empêcher de faire. Si vous voulez, quand il dit, il faut un choc d'autorité. Je trouve ça extrêmement cruel pour le président de la République et pour ses prédécesseurs. C'est-à-dire que pendant 7 ans, il n'y a pas eu d'autorité. Qu'ont fait Édouard Philippe
C'est un aveu d'échec.
Qu'ont fait Madame Borne, le président de la République, depuis 7 ans? Pourquoi n'y a-t-il pas eu de choc d'autorité avant? Les problèmes, ils ne datent pas d'aujourd'hui. Donc quand il dit qu'il faut un choc d'autorité, je trouve que le constat est à la fois juste, mais cruel pour et le président de la République et ses prédécesseurs.
Et leur problème, en fait, c'est qu'ils veulent, toujours... Il n'assume pas de ne pas être aimé. Et je reprends mon exemple de ce qu'il a dit sur la laïcité. Il faudrait dire aux gens, la France c'est difficile, oui, parfois ça exige, c'est exigeant, en retour vous avez des trucs merveilleux, la culture française, le mode de vie français, les fromages, ce que vous voulez, le Notre-Dame, le Louvre, tout. Mais ça demande des sacrifices. Au lieu de ça, on essaye de raconter aux gens, si vous voulez, que tout ça c'est en fait très gentil. Non, la laïcité à la française, c'est dur. Ça demande de renoncer à exprimer dans l'espace public ses convictions religieuses, oui, etc. Ça demande à pas enquiquiner son voisin pendant le ramadan. Ça demande, c'est exigeant. Or, on a arrêté avec le vocabulaire de l'exigence depuis tellement longtemps que plus personne, si vous voulez, ne sait dire aux gens, oui, il va falloir faire des efforts. On va en baver pour la dette, on va en baver. Et la laïcité, c'est pas non, c'est pas un truc gentil pour tout le monde.
Bon, je voudrais qu'on entende un autre extrait de Gabriel Attal aujourd'hui à Viry sur ces fameux internats, donc où il souhaite placer certains jeunes. Écoutez-le.
Il y a dans notre pays des dizaines de milliers de places en internat qui sont désespérément vides. Je l'avais dit dans ma déclaration de politique générale, je le répète aujourd'hui, j'y vois une opportunité. Une opportunité pour couper rapidement et efficacement un jeune de ses mauvaises fréquentations. Mon idée est simple. Avant qu'un jeune ne tombe vraiment dans la délinquance, quand on s'aperçoit qu'il commence à avoir de mauvaises fréquentations, à traîner dans la rue, nous proposerons aux parents que leur enfant soit envoyé en internat, loin de son quartier et de ceux qui le poussaient à plonger. Pour ces jeunes, l'internat sera une opportunité, celle d'apprendre, celle de retrouver un cadre, celle de conserver intactes ses chances de réussir, celle d'éviter de sombrer dans la spirale de la délinquance et parfois du crime.
Alors déjà, des dizaines de milliers de places dans les internats, je vous dis franchement, ça paraît quand même énorme. Des milliers de places peut-être, des dizaines de milliers, j'en suis pas certain. C'est soumis à l'accord des parents. Pierre, construisez des centres fermés pour mineurs et arrêtez de nous parler d'internat.
La bonne nouvelle, c'est que pour la première fois, il a parlé d'entrisme islamique. Oui. Au niveau de Matignon, c'est important.
Et on avance dans les propositions.
Maintenant, après, derrière, c'est pathétique. Ah. C'est pathétique. Honnêtement, qu'est-ce que c'est que ce centre d'internat, des internats avec l'autorisation des parents? Il y avait dans le temps un truc qui s'appelait les maisons de redressement. Quand il y avait des enfants qui dérapaient, on les mettait dans des endroits fermés, surveillés par des matons, et il y avait une discipline, on leur apprenait un métier. Parce qu'on ne va pas raconter que ces jeunes-là vont aller au bac, devenir avocat ou ingénieur chimiste ou en biotechnologie. C'est une blague.
Ils ne sont pas fichus. On peut espérer pour les plus jeunes.
Ceux qui en sont à taper à coups de marteau à 14 ans.
Oui, non, mais ça, oui. Là, vous parlez du cas extrême.
Ça, c'est pas, ça reste pas dans le système scolaire et ça reste pas dans la rue. Donc, il y a des maisons de redressement. Mais il y a un moment où il faut. Écoutez. Imaginez deux secondes, vous soyez à Matignon et que vous vouliez regarder ce problème.
J'ai du mal à l'imaginer, mais. Julien. Je vais essayer très fort.
Vous êtes là, vous avez été nommé avec ce problème énorme sur les bras.
Ouais,
vous
ça y est, j'y suis.
Qu'est-ce qui est la première chose que vous faites, à votre avis? Eh ben, vous faites une carte du problème. Ah oui. Vous voulez savoir combien de jeunes, qui ils sont, d'où ils viennent, quel milieu social, et comment je les sors de là. Est-ce qu'on a cette carte? Non. Les statistiques ethniques sont interdites dans notre pays. C'est interdit, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne veut pas le savoir. Ce que moi, sur quoi je travaille, je vais vous dire. Comme il n'y a pas de statistiques, je suis obligé de m'appuyer sur des statistiques de l'INSEE qui s'appellent trajectoire et origine, en regardant précisément quelle est la part des enfants venant de l'immigration nés en France ou venant en France comme étrangers. On y arrive à peu près, mais les chiffres sont considérables. C'est on est en train de parler d'une population d'enfants à hauteur de 40%.
Pierre, la situation. Il est un petit peu plus de 23h30. Donc, on va marquer une pause pour l'actualité. Oui, il faut respecter les horaires. C'est la base, vous savez, n'est-ce pas? J'allais dire Pierre Lelouch. Non, Maureen Vidal, pour l'essentiel de l'actu, en moins d'une minute, et on poursuit cette discussion. Maureen.
Mmh. Alors que la conférence sur la Palestine de Jean-Luc Mélenchon a de nouveau été annulée par la préfecture, prévue dans une salle à Lille, LFI a appelé un rassemblement sur une place de la ville en fin d'après-midi. De son côté, le chef de l'État a évoqué l'engagement de certaines organisations et associations pour ce rendez-vous, qui a clairement donné des positions antisémites et antisionistes selon ses mots. Emmanuel Macron a tout de même rappelé que chacun peut exprimer sa voix, de Jean-Luc Mélenchon à Éric Zemmour, même s'il est en désaccord avec leurs opinions. Téhéran fera regretter à Israël toute attaque contre son pays. Ce sont les mots du ministre iranien des Affaires étrangères devant le Conseil de sécurité de l'ONU. La République islamique d'Iran n'hésitera pas une seconde à affirmer ses droits, à répondre de façon décisive et adéquate, a-t-il déclaré. Enfin, cette alerte de l'Organisation mondiale de la santé et la transmission de la grippe aviaire H5N1 à l'homme est une énorme inquiétude. Un taux de mortalité extraordinairement élevé a été constaté chez les personnes contaminées par des animaux. Il n'y a pour l'heure aucune preuve d'une transmission d'humain à humain de ce virus. Virus H5N1.
Redites-moi.
Le virus H5N1.
Merci.
C'était un peu compliqué.
Merci beaucoup, Maureen. Il est l'heure d'aller se coucher, ça tombe bien, on va pouvoir se reposer. Merci infiniment et à très vite. Gabriel Attal, dernier extrait. Les jeunes ne sont pas fichus. Écoutez-le.
Non, nos adolescents, non, nos jeunes ne sont pas fichus. Ils ne sont pas foutus. Si la France ne comprend plus des pans entiers de nos adolescents et de nos jeunes, je sais combien elle a aussi parfois le sentiment qu'elle n'arrive plus à l'embarquer, à les embarquer dans un idéal commun. Mais dans ce contexte, ma responsabilité en tant que Premier ministre, c'est bien de nommer les choses, en rechercher les causes et surtout trouver des solutions.
Elisabeth, je voudrais qu'on revoie aussi ces mesures sur l'aspect pénal et sur l'excuse de minorité, parce qu'il en a parlé, le chef du gouvernement. Est-ce qu'il faut la faire évoluer? De quelle façon?
Non, mais vous savez quoi, en fait, comme ça, malheureusement, ça fait, je sais pas, ça fait 7 ou 8 ans, si vous voulez, que je viens sur ces plateaux et que nous retraitons régulièrement cela. Non, mais c'est pas du tout un reproche. Ce que je dis, c'est que, en gros, à peu près tout le monde sait dans quel sens il faudrait réformer les choses. Je vais pas vous raconter qu'on peut juger des gens de 14 ans qui font ce qu'on nous a raconté tout à l'heure, comme s'ils avaient, je sais pas, chapardé, volé une poule. Je veux dire, c'est donc, je sais pas comment vous dire, c'est tellement évident. Donc je ne comprends pas quel est le blocage d'ailleurs, puisque il me semble qu'il y a un.
Le blocage, c'est la loi jusqu'à présent.
Non, mais pourquoi? Il me semble qu'on pourrait trouver un large accord. Disons, les gens sont pas complètement stupides.
Ce gamin de 14 ans, par exemple, s'il est avéré qu'il a commis ce qui lui est reproché, vous le jugez comme un adulte? Je parle dans le meurtre sauvage de, écoutez, de Philippe à.
Je ne suis pas médecin ni pédopsychiatre, mais ce que j'ai lu des uns et des autres, c'est que si à 14 ans vous n'avez zéro conscience du bien et du mal, ça va être quand même assez compliqué de vous.
Ça s'appelle l'excuse de minorité.
Oui.
Mais qui consiste à couper la.
Ça vous ennuie quand on finit une phrase, pardon, mais bon, c'est pas grave.
Allez-y, Pierre.
Non, mais c'est bon, c'est pas grave.
Elisabeth.
C'est juste déconcertant. Je vous en prie, allez-y.
La question, c'est de savoir si on change ou pas l'ordonnance de 45 et si on change ou pas le système qui permet de réduire les peines. Voilà. Je pense que c'est ça que vous
voulez. Elle ne passe plus auprès de l'opinion, l'excuse de minorité.
Non, ce que je voulais dire, c'est que tout le monde le savait très bien et que je ne vois pas. En fait, ça, je ne comprends pas pourquoi on ne le fait pas. En fait, je ne comprends pas ce qui nous bloque, je ne comprends pas si c'est idéologique.
Ça s'appelle la démocratie.
J'ai l'impression que. Non, il me semble, ce que je voulais dire,
c'est
qu'il me semble
qu'il y aurait. Il y a une nouvelle donnée aussi, c'est le nombre. Tu sais, il y a 20 ans ou 30 ans, lorsqu'ils refusaient de le faire, c'est qu'ils disaient oui, mais ça fait quand même beaucoup de jeunes qui posent problème, notamment en raison de l'immigration. Sauf que ce nombre aujourd'hui, il a encore plus augmenté. Parce que la clé aujourd'hui, c'est pas de se dire on peut pas sauver tout le monde. La vérité, elle est là. Il y a plein de jeunes aujourd'hui, leurs parents, c'est qui? Parce qu'à chaque fois, on dit il faut responsabiliser les parents. Mais leurs parents.
Bah c'est dans la charte de Gabriel Attal. Hein.
C'est les jeunes des émeutes de 2005.
Mais c'est le pays où on obtient des résultats.
C'était il y a 20 ans. Et ces jeunes-là, demain, ça va être les futurs parents d'enfants qui vont poser un nouveau problème. C'est-à-dire que pour moi, la véritable question, c'est comment sauver les autres.
En fait, pour répondre plus sérieusement à votre question, j'ai l'impression que les démocraties occidentales ne savent pas sanctionner ceux qui ne respectent pas le contrat social. C'est quelque chose d'assez général. Ce qui fait que nos démocraties occidentales sont en proie, que ce soit des États-Unis, de l'Europe, sont en proie à une violence grandissante, à un rajeunissement de la violence, parce que la sanction n'est pas dans l'ADN des démocraties occidentales.
Elles sont peut-être aussi en train de mourir du droit, d'un droit qui a été...
Oui.
dévoyé, qui est plus adapté. Et dans la question d'Elisabeth Lévy, moi je percevais aussi peut-être que le blocage vient aussi peut-être des juges qui ont et des élites qui ont une idéologie qui n'est pas partagée malheureusement par le plus grand nombre.
Non, mais
on en revient à cette fracture entre le peuple et les dirigeants.
Mais Alex,
et les élites manifestement ne font pas le
mien.
Ça fait quand même de la peine, où on a quand même du mal à se résoudre à ce qu'à 14 ans on se dise on va pas tous les enfermer. De toute façon, c'est quoi le...
Manuel Bompard, qui est le coordinateur national de la France Insoumise, qui a réagi sur le fait de sanctionner les parents. Là aussi, un serpent de mer de nouveau agité par Gabriel Attal.
Les sanctions à l'égard des parents, on a déjà testé en France pour lutter contre l'absentéisme scolaire, c'était sous Nicolas Sarkozy, ça n'a pas fonctionné. Il existe déjà dans notre pays ce qu'on appelle des mesures d'assistance éducative, quand on considère qu'une famille, des parents sont en difficulté pour l'éducation de leurs enfants. Le problème, c'est que ces mesures ne sont pas exécutées parce qu'il n'y a pas de moyens pour les associations qui sont censées les exécuter. Donc le problème, c'est que c'est bien les beaux discours sur le sujet, mais la vérité, c'est qu'on est en train, par exemple, de mettre en œuvre 10 milliards de coupes budgétaires, et que quand on attaque sur ces milliards de coupes budgétaires, c'est par exemple des assistants d'éducation qu'on est en train de supprimer à l'école. Donc je veux dire, il faut être un peu cohérent dans les paroles et dans les actes.
Les associations chères à la France Insoumise.
C'est ce genre de discours qui nous tue, si vous voulez, depuis des années. Juste une remarque.
Oui.
La semaine dernière, il y a un tribunal américain qui a condamné à la prison
les parents
qui avaient laissé traîner des armes. Et l'un 10
ou 15 ans en prison, ils ont pris, je crois.
Voilà, ils ont pris 15 ans. Je crois qu'il faut arrêter avec les associations, les allocations familiales, etc. Ou bien les parents s'occupent des enfants, ou bien ils ne s'en occupent pas. S'ils ne s'en occupent pas, on les prend en charge, on les met dans des centres de redressement où ils vont apprendre un métier. Et on les sort de là. Sinon, on en sort.
Ça serait bien de réinvestir les quartiers dans lesquels ils se sentent aussi abandonnés parfois.
Là-dessus, pour des...
À la décharge de certains parents, vous avez des quartiers qui sont en proie et qui sont aux mains des dealers. Il y a un moment, l'État peut faire aussi une part du travail. Alors, Johan qui attendait la parole et Eric, bien sûr, pour conclure.
Non, mais il faut
arrêter. On passe à autre chose ensuite.
Il faut arrêter avec les associations. Si vous écoutez la France Insoumise, il faut subventionner encore et encore et encore davantage toutes les associations de France et de Navarre. Donc, si vous voulez, ça n'est pas possible. Là, on n'est pas à un stade où il faut donner davantage à des associations.
L'État n'est pas une association.
Non, naturellement. On est à un stade où il faut beaucoup plus de sévérité et de sévérité de la justice, notamment. Mais si vous voulez, la France insoumise, c'est cette idéologie gauchiste, naturellement, qui consiste à nous faire croire que les coupables sont des victimes. Sont des victimes de par leur origine sociale, de par leur passé, de par leur contexte familial. J'en passe et des meilleurs. Et tout cela, en fait, arrive à un moment où il y a un laxisme qui s'installe. Rendez-vous compte que pour la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon le dit, il l'a dit plusieurs fois, il le répète à l'envi, si vous désarmez les policiers, c'est d'ailleurs ce qu'il prône, désarmer les policiers, eh bien les délinquants en face seront moins violents, parce que c'est le fait que les policiers soient armés
qui
les rend davantage violents.
C'est génial.
Mais est-ce que vous vous rendez compte de la manière de penser de ces responsables politiques? Et c'est évidemment ce genre de discours et cette manière de penser qui nous ont conduit à la situation, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons en ce moment.
Bon, dernier mot là-dessus, Eric, et puis on avance sur un dernier thème.
Il ne faut pas essentialiser les parents. C'est-à-dire qu'il y a des délinquants, ils sont parents. Et des délinquants qui, en fait, des parents qui, à l'époque où, justement, on pouvait les sanctionner lorsqu'ils allaient faire du trafic de drogue ou autre, de toute façon, faisaient du trafic de drogue. Tout ça pour dire qu'en fait, aujourd'hui, la sanction, elle n'est pas là pour essayer de changer les comportements en soi. Elle n'est pas là pour essayer d'éduquer un enfant. Elle est là pour rendre justice. Aujourd'hui aussi, c'est quelque chose que je salue sur Gabriel Attal cet après-midi, c'est qu'il a dit quoi? Il a dit, sur les sanctions pour les parents, pour l'instant, c'est uniquement pour les manquements graves. Aujourd'hui, il faut le baisser, il faut faire pour les manquements répétés, qui sont des manquements simples à l'autorité aujourd'hui. Sauf que la problématique, c'est qu'il refuse, par exemple, de s'attaquer à la question des aides sociales, des allocations familiales. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a majorité de ses parents qui posent problème, qui ne sont pas solvables. Or, il refuse aussi...
Parce qu'il y a des fratries, parce que vous sanctionnez toute une famille... Pour les faits d'un seul. Mais
on ne doit pas le faire uniquement parce qu'on va penser que c'est ce qui va faire que d'un coup ce parent va devenir quelqu'un de bien, etc. On doit le faire aussi parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup des parents qui se comportent très bien, qui ont des problèmes financiers, qui ont des problèmes sociaux. On sait aujourd'hui que notre argent, il va n'importe où. que les Français dépensent énormément d'impôts. On est le pays avec le taux de prélèvement obligatoire le plus important de l'OCDE. Mmh. Et donc, à un moment donné, eh bien, il faut arrêter de donner à ceux qui, de toute façon, ne s'occupent pas, ne respectent pas leurs droits. Et peu importe que ça change pas leur comportement, cet argument de Pompard, il tient pas. Au moins, bah, c'est de l'argent à récupérer parce que ces gens-là, c'est des délinquants.
Bon, vous avez peut-être vu passer aujourd'hui cette autre information qui aurait pu être beaucoup plus dramatique. Un individu a asséné des coups de couteau à deux jeunes mineurs près d'un établissement scolaire et dans un square de Souffelweyersheim, pardon pour la prononciation, c'est près de Strasbourg, comme son nom l'indique. Par chance, les deux victimes ont légèrement été blessées. L'assaillant a été rapidement interpellé. Écoutez quelques riverains qui témoignent.
Il y avait un homme qui courait vers mon école. Je ne savais pas ce qu'il venait faire. Du coup, je suis tout de suite allée à l'intérieur dans mon école. Et j'ai vu qu'il y avait un homme qui avait un couteau en main et qui voulait faire une action.
Il voulait blesser ?
Ouais, blesser une fille, mais je ne sais pas comment elle s'appelle.
J'étais vraiment très choquée. Ça ne devrait pas se passer. En 2024, il ne devrait pas se passer des trucs comme ça. Et vraiment, à mettre plus de personnes autour des écoles pour surveiller, comme des agents, voilà.
Alors, le suspect, a-t-on appris, avait déjà fait 3 séjours dans des structures psychiatriques adaptées et était suivi. Il est en rupture de traitement depuis novembre 2023. Il avait tenté de se suicider en 2022. Il avait disparu hier soir dans un état suicidaire. Regardez le tweet de Éric Ciotti, le patron des Républicains, qui s'est indigné de l'état de notre psychiatrie. Encore une fois, à juste titre, il me semble, l'attaque au couteau de deux jeunes filles de 6 et 11 ans par un individu présentant des troubles psychiatriques est le symptôme de l'incapacité de l'État à prendre en charge ses pathologies. Toutes mes pensées accompagnent les victimes et leurs familles. Il y a deux choses. Évidemment que les attaques au couteau sont en train de devenir dans notre pays ce que sont les attaques à l'arme à feu aux États-Unis. Et puis, cette question, comment un individu psychiatriquement atteint, troublé, dangereux, est-il resté sans aucune contrainte et a pu sortir pour atteindre une école et évidemment que le pire a été évité, hein, parce que ces gamines sont blessées légèrement, mais ça aurait pu être un drame absolu.
C'est tout le problème de la psychiatrie en France. Il y a tellement peu de moyens qu'on n'a pas la capacité de suivre correctement les patients. Et quand ils sont suivis, ils le sont à minima. Et si on considère effectivement qu'une personne, de par ses problèmes psychiatriques, représente un danger pour la société, eh bien, elle devrait rester en hôpital psychiatrique et ne pas en sortir. Or, on se rend bien compte là que ça n'est pas le cas.
On l'a déjà commenté cette affaire, hein. Et on la recommentera.
On la recommentera dans quelques semaines, évidemment, parce que les choses ne changent pas et parce que la psychiatrie est toujours le parent pauvre de la médecine et que, évidemment, nous n'avons pas les moyens de bien faire les choses et donc ça peut conduire à des drames, bien sûr.
On ressent une grande vulnérabilité, Alexandre, personnelle, collective, à l'aune de ces attaques qui peuvent arriver n'importe où, n'importe quand. On ne se sent plus protégé à la hauteur de la menace, qu'elle soit terroriste, qu'elle soit psychiatrique, délinquance pure.
S'il y a un lien peut-être entre tous les sujets qu'on a vus, hormis ceux qu'on a déjà évoqués, le lien avec l'importation d'autres mœurs, etc., c'est aussi une forme de délitement de l'État régalien. Tout à l'heure, on parlait des associations. On met beaucoup d'argent pour des associations qui parfois en plus sont là pour détruire le bien commun plutôt que de le servir. Et par contre, l'État régalien, celui qui est censé assurer notre sécurité, notre santé, que l'école fonctionne bien, et on pourrait multiplier tous les exemples. En fait, dans tous les domaines, on a l'impression que cet État qui a en plus en France contribué à créer la nation, à la construire, est en train de se défaire. Et ça, c'est très inquiétant parce qu'effectivement, quand l'État se défait en France, c'est peut-être aussi une partie de la nation qui se défait. Donc, et aujourd'hui, on a besoin de rebâtir pièce par pièce cet État. Et c'est peut-être là qu'on aurait attendu Gabriel Attal. Parce qu'on voit bien là qu'on a des mesurettes qu'on ne va même pas pouvoir appliquer. C'est bien gentil de vouloir punir les parents. Moi, je suis d'accord. Mais effectivement, il faudra sans doute leur supprimer les allocations. Mais alors, aller leur faire des travaux d'intérêt généraux.
Mais vous imaginez l'usine à gaz.
Ça fait rire. Les gens pour des cons, c'est des usines à gaz supplémentaires.
Et ça coûte un bras à l'État.
Et ça coûte, effectivement.
Et on pense donc à ces deux gamines qui, au-delà des blessures légères, bien heureusement qu'elles ont reçues, seront traumatisées très longuement, on peut l'imaginer, comme tous les enfants autour, les parents, les témoins, et que ce sont des dommages collatéraux libéraux qui sont absolument insupportables. Il nous reste à peine 2 minutes et on va pas se quitter sur une info comme celle-là. Mais alors c'est pas très rigolo, mais et ça en concerne quelques-uns sur le plateau. J'aurais bien aimé avoir votre avis. Au Royaume-Uni, vous l'avez sûrement vu, on a vu ça depuis 24 heures, une génération sans tabac pourrait voir le jour. C'est un projet de loi qui a été voté par les députés. Je regarde plutôt de ce côté de la table parce que je crois que mais j'explique quand même aux gens qui nous regardent parce que tout le monde n'est pas au courant. Un projet de loi a été voté aujourd'hui en Angleterre. Il prévoit d'interdire la vente de cigarettes pour tous les gens qui sont nés après 2009 et ce donc pour une interdiction à vie sur tout le territoire. Le but, c'est de créer la génération alpha, la première génération de l'histoire du pays, sans tabac sa naissance à sa mort.
Vous savez, ça fait vraiment penser aux communistes qui voulaient créer un
Moi, je trouve ça très bien.
Pardon, excusez-moi. Il y a quelque chose qui s'appelle la liberté, le libre arbitre. Vous vous rendez compte?
Prenez l'eurotunnel, là, et vous allez acheter des clopes en France.
La même chose que pour la liberté d'expression. Qui dépend. Mais Pierre,
Julien, je suis atterré par votre...
Mais j'étais sûr.
On est tous pareils.
Pourquoi vous êtes atterré?
Mais vous êtes dingue!
Vous vous rendez compte que c'est orwellien?
L'État veille à la santé de ses compatriotes.
Orwellien.
C'est de la mort en barre, les cigarettes.
Non, je suis bien d'accord.
Arrêter de fumer pour autant.
Je suis en train d'arrêter de fumer, j'ai compris ça.
Il a fallu un peu de temps.
C'est très difficile. C'est une addiction lourde et difficile. Mais qu'on dise qu'on va interdire pour une génération, mais c'est qui ces gens qui ont voté ça? Demain, ils vont vous interdire quoi? Vous savez, ça s'appelle...
L'alcool, ce sera très bien.
Le sexe,
évidemment.
Ce sera très bien.
Vous savez qu'il y a une centaine d'années aux États-Unis, au nom de l'eugénisme et des races supérieures, on a fait des lois comme ça. Moi, j'interdirais tous les Juliens, par exemple.
Vous auriez raison.
Juste un mot, Julien, c'est les héritiers.
J'interdis les Pierres sur ce plateau à partir de ce soir.
C'est les coiffeurs.
Allez, la musique, on y va, on doit finir.
Le parti conservateur, le parti de Winston Churchill, qui est en train d'interdire le tabac.
Et c'était pas le dernier à cloper.
Pourquoi pas une Angleterre sans les Beatles et les chips au vinaigre?
Oh là 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 là. Allez, malheureusement, on doit s'arrêter là, parce que là, je suis en train de me prendre une volée dans l'oreille. Tiens, on va saluer les joueurs de l'Olympique de Marseille, qui sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue Europa. Ils ont battu Benfica au pénalty. Merci de nous avoir suivis. Thomas Leroy, Martin Mazur, Coralie Deleplace ont préparé cette émission. Qu'est-ce qui va avoir bon goût?
Le Ricard.
Arrêtez, vous ne citez pas de marque d'alcool. Je suis en train de rendre l'antenne, vous me mettez en difficulté. C'est très dangereux pour la santé. À boire avec modération. Merci. Vive le week-end avec Olivier de Kerenfleck. Bonne nuit et à très vite. Soir Info, c'est terminé.
On va faire un Julien.